Vous êtes bien à l'écoute des programmes en français de Radio Prague, des programmes que l'on entame tout de suite avec un bulletin d'information et avec Stanislav Gross qui est en France depuis ce mardi. À Paris, il a rencontré le Premier ministre français. À l'issue de leur entretien, messieurs Raffarin et Gross ont indiqué lors d'un point de presse qu'ils avaient créé des groupes de travail pour régler les différends entre leurs deux pays, notamment sur les restrictions imposées aux Tchèques pour l'accès au marché du travail français. La France demande d'autre part une remise à plat de la directive Bolkestein sur la libéralisation des services qui permettrait à des entreprises offrant des services dans plusieurs États membres de l'UE d'appliquer la législation de leur pays d'origine. Une clause favorable notamment à la République tchèque. Comme le prévoit le traité d'adhésion, la France a par ailleurs fermé son marché du travail aux ressortissants de la plupart des nouveaux pays membres, dont les Tchèques, d'abord pour une période de 2 ans, éventuellement renouvelable pour 3 ans et sous condition éventuellement encore 2 ans. Monsieur Gross aimerait convaincre les dirigeants français de limiter la période transitoire à seulement 2 ans, soit jusqu'en mai 2006. On revient à Prague, mais toujours pour parler de Stanislav Gross, puisque l'affaire autour de ses finances privées et de celle de son épouse Sharka Grossova prend à nouveau de l'ampleur. Les chrétiens-démocrates, partenaires gouvernementaux du Parti social-démocrate du Premier ministre, souhaitent en effet désormais obtenir des explications à propos du patrimoine immobilier des époux Gross. Rappelons que depuis plus d'un mois, les finances privées du chef du gouvernement et de sa femme sont l'objet d'une polémique à cause entre autres d'un appartement luxueux et d'un pavillon acheté dans la capitale tchèque sans que personne ne connaisse l'origine des fonds. L'ancien président ukrainien Leonid Kouchma a entamé mardi un séjour de repos dans la station thermale de Karlovy Vary en Bohême de l'Ouest. La venue de M. Kouchma coïncide avec l'annonce faite à Kiev par son successeur, Viktor Yushchenko, du réexamen de plusieurs dizaines de privatisations d'entreprises réalisées ces dernières années dans des conditions souvent controversées. Le service de presse de la Fondation de bienfaisance de M. Kouchma, le Fonds Ukraine, a tenu à préciser que ce séjour à Karlovy Vary n'avait pas le moindre lien avec des craintes de poursuite. Selon cette fondation toujours, l'ex-président ukrainien doit rester en République tchèque 24 jours. Entre moins 4 et 0 degrés, un ciel couvert avec des chutes de neige, c'est ce que prévoient les météorologues sur l'ensemble du pays pour ce mercredi, fête de toutes les Jirjina en République tchèque. Et c'est ainsi que se termine ce bulletin d'information. Je vous retrouve dans un instant pour une nouvelle édition de la République tchèque au quotidien.
Faits et événements en République tchèque. Jarka Gisubelova.
Bienvenue à toutes et à tous à l'écoute de ce tour d'horizon de l'actualité tchèque. Dont voici les grands titres. Le Premier ministre Stanislav Gross est en visite officielle de 2 jours en France. Un sondage de l'agence Eurobaromètre montre que les 2/3 des Tchèques soutiennent le traité constitutionnel. L'hôpital mobile tchèque au Sri Lanka est prêt à entrer en service. Qu'est-ce que le projet Odaviak? 80 ans du Pen Club tchèque. Très bonne écoute à tous. Le Premier ministre tchèque est à Paris ce mardi et mercredi. Stanislav Gross est pour la première fois dans la capitale française où notre envoyée spéciale, Alena Gebertova, qui suit l'événement, nous a téléphoné.
C'est mardi et mercredi, 6 mois environ après l'ascension à la tête du gouvernement tchèque, Stanislav Gross effectue une visite officielle en France. Un programme bien rempli l'amène à Paris, à Dijon et à Lyon. Des conversations avec Christian Poncelet, président du Sénat français, avec le premier secrétaire du Parti socialiste François Hollande et notamment avec son homologue français Jean-Pierre Raffarin et avec le président Jacques Chirac ont marqué le volet politique du séjour de Stanislav Gross dans la capitale française. Le volet économique trouvera son point culminant ce mercredi matin à Lyon, où le Premier ministre tchèque prononcera un discours à l'occasion de l'ouverture d'un forum économique tchéco-français au siège de la Chambre de commerce et de l'industrie de Lyon. Force est de constater que la partie tchèque voue une grande importance au développement des relations commerciales entre les deux pays, ce dont témoigne le fait que Stanislav Gross soit accompagné du ministre de l'Industrie et du Commerce Milan Urban et d'une 30aine d'entrepreneurs tchèques. Par ailleurs, la question des investissements français en République tchèque avait été examinée déjà lors des entretiens qu'a eu au début de ce mois en France le vice-premier ministre tchèque Martin Jan. On notera que le jeune Stanislav Gross se trouve en France au moment où il doit affronter dans son pays une affaire autour du financement de son appartement. Affaire qui ne cesse de défrayer la chronique encore aujourd'hui.
L'Institut de sondage Eurobaromètre vient de publier les résultats de son premier sondage après l'entrée de 10 nouveaux membres à l'Union européenne. Il révèle, entre autres, que les Tchèques seraient une population européenne des plus sceptiques. Alain Slivinski.
Il semble que les espoirs des citoyens tchèques comptant sur un avenir radieux au sein de l'Union européenne aient partiellement disparu. Les résultats du sondage effectué par Eurobaromètre auprès de 13 000 personnes habitant dans tous les pays membres de l'Union européenne font apparaître que les Tchèques seraient parmi les moins optimistes de l'Union. Ils sont très pessimistes aussi, bien à l'égard de leurs ambitions personnelles, qu'à l'égard de leurs relations avec l'Union européenne. D'un autre côté, le sondage constate que les citoyens tchèques soutiennent plus que les autres nations européennes la défense et la politique de sécurité commune. Ils sont aussi beaucoup plus pour un nouvel élargissement de l'Union. À la différence des citoyens de certains pays européens, les Tchèques n'affichent pas, en général, une position négative à l'égard des États-Unis. Ils sont d'ailleurs en tête du classement en ce qui concerne le soutien à la lutte des Américains contre le terrorisme. Il est très intéressant de constater que les sentiments des Tchèques diffèrent de ceux des Slovaques, qui sont pleinement satisfaits de leur situation en Europe. Les spécialistes expliquent ce phénomène par le fait que les Slovaques ont été fortement touchés par les réformes radicales introduites par le gouvernement. Ils pensent donc que cela ne peut être pire. Quelques chiffres pour illustrer l'opinion tchèque sur son avenir. 41% de Tchèques pensent que rien ne changera dans les années prochaines. Seulement 23% pensent que la situation s'améliorera, mais 25% qu'elle va empirer, alors que 11% ne savent pas. Par contre, en ce qui concerne une question très importante pour le proche avenir, celle de la Constitution européenne, le pourcentage de Tchèques qui soutiennent le traité a augmenté pour arriver à 63%. Seulement 18% de citoyens tchèques seraient contre et 19% ne savent pas. Pourtant, d'autres sondages indiquent que dans le cas d'un éventuel référendum sur la Constitution européenne, seulement 19% des électeurs se rendraient aux urnes. Il apparaît donc que les Tchèques soutiennent le principe de la Constitution, mais ne pensent pas que leurs voix auront un grand poids au sein de toute l'Union. Certains spécialistes décernent dans ce comportement l'influence probable des déclarations du président de la République Václav Klaus. Selon lui, avec l'adoption de la Constitution, la Tchéquie perdra une partie de son influence au profit des grands pays. Le sondage de l'Eurobaromètre indique aussi que les Tchèques seraient d'assez grands partisans de la monnaie commune, l'euro.
La mission humanitaire tchèque au Sri Lanka se voit confrontée à un chaos qu'on n'est pas arrivé à maîtriser entièrement depuis la catastrophe naturelle qui a frappé l'île à la fin de l'an dernier et qui est à l'origine des problèmes qui freinent la mise en service de l'hôpital mobile tchèque, explique son chef Jaromír Dolanský. Selon lui, l'aéroport de Colombo n'est pas prêt à accueillir tous les avions qui acheminent de l'aide humanitaire. Ceci a retardé la fourniture d'appareils qui devaient être disponibles il y a quelques semaines. En plus de cela, l'hôpital connaît des problèmes de coupure de courant. Mais la situation s'améliore et l'hôpital pourra être mis en service vendredi prochain, a-t-il indiqué à la radio tchèque. Du point de vue technique, l'hôpital est à 100% opérationnel. Nous avons commandé en Tchéquie encore un bloc électrogène pour résoudre le problème des coupures qui ne frappe bien évidemment pas que nous, mais toute la région. Pour cette raison, la climatisation dans les salles d'accouchement ne fonctionne pas. Il y a des flottements du courant et des coupures à répétition jusqu'à 3 fois par jour, des fois même à 3 reprises en 1 heure, il y a des jours où cela marche toute la journée. L'hôpital mobile tchèque, composé de 30 membres, pédiatres, gynécologues et autres spécialistes, a déployé sa base dans la ville de Galais pour remplacer des établissements détruits par les vagues du tsunami. Les autorités sri-lankaises ont demandé à la partie tchèque de laisser l'hôpital sur l'île pendant les 6 mois à venir au minimum. L'hôpital a été envoyé à Galais à la mi-janvier par l'ONG Hand for Help. Les frais de la mission sont couverts par le Sénat tchèque et par les moyens collectés par les ONG, l'Homme en détresse, la Goutte de l'Espoir, ADRA et Notre Enfant. Les soins aux enfants, aux femmes enceintes et aux nouveau-nés sont le premier objectif de l'hôpital. Les médecins tchèques sur place depuis le début de janvier partent également sur le terrain pour soigner notamment des blessures infectées. Selon le porte-parole des secouristes Martin Fried, chaque jour, ils soignent entre 100 et 200 patients, dont les 2/3 sont des enfants. Jitka Štenclova, Aldřich Smutný, Petr Nikl, Franta, Jiří Kolář. Voilà quelques-uns des plasticiens tchèques, tous attachés à la France, et dont les œuvres sont exposées actuellement à l'Institut français de Prague. Créée à partir de dons d'artistes concernés, cette collection de peintures a pour objectif de soutenir et de promouvoir un projet socio-culturel intitulé Odabiak, par l'intermédiaire de l'art vers la liberté. Lancé par un couple tchèque fixé en France, Radana et Jiřívald, il donne l'occasion à des enfants tchèques sans famille de passer chaque année une partie des grandes vacances sous le soleil provençal dans les Cévennes. Hébergé dans une bastide rénovée au Dabiak, il se livre en compagnie des personnalités de la culture tchèque à différentes activités artistiques. Jiřívald parle des débuts du projet au Dabiak. Propos recueillis par Magdalena Segertová.
Ten projekt vznikl asi, nebo ta myšlenka uspořádat něco takového vznikla v roce...
L'idée de mettre sur pied un tel projet nous est venue en 1998, lorsque nous avons aidé les orphelinats en Moravie, qui venaient d'être touchés par les inondations dévastatrices. Nous nous sommes rendus compte qu'au niveau matériel, ces enfants abandonnés avaient tout ce dont ils avaient besoin, mais qu'il leur manquait, disons, une approche personnelle. Alors, nous avons décidé de les inviter en France et en même temps de les initier dans des disciplines artistiques. En 2000, nous avons fondé en France l'association civique Odabiak. Depuis, nous y organisons des séjours réguliers, nous accueillons chaque été quelques 70 enfants. Mais ce projet est destiné aussi aux adultes, à tous ceux qui élèvent des enfants, que ce soit des pédagogues, des parents biologiques ou adoptifs. Nous voulons leur montrer comment profiter dans l'éducation de la force magique de l'art.
Le 80e anniversaire du Pen Club tchèque a été évoqué lors d'une conférence de presse donnée ce mardi dans une salle du Café Louvre à Prague, Václav Richter.
Le président actuel du Pen Club tchèque, Jiří Stránský, a rappelé à cette occasion les origines de cette association.
V této místnosti se před 80 lety, to je z 15. února,
dans cette salle, on a fondé il y a 80 ans le Pen Club tchèque. L'événement a eu lieu 4 ans après la fondation du Pen Club anglais, le premier dans le monde. C'est dans cette salle qu'on a élu Karel Čapek président du Pen Club. Et je dois dire que je lui envie beaucoup qu'il n'ait été président que pendant 7 ans. Moi, je suis président depuis 1993, donc pendant un temps presque double, et mes cheveux ne peuvent être plus blancs qu'ils ne le sont maintenant. Voilà, c'est comme ça.
Aujourd'hui, le Pen Club tchèque réunit 216 écrivains, poètes, historiens de littérature, critiques et traducteurs. Parmi eux, on trouve les deux présidents tchèques élus depuis la chute du communisme en 1989, Václav Havel et Václav Klaus. C'est un organisme qui suit les écrivains emprisonnés et proscrits dans le monde, cherche à les aider et œuvre pour leur libération. À partir de 1994, le Pen Club tchèque décerne tous les deux ans le prix Karel Čapek et le prix du Pen Club. Parmi les lauréats de ce prix, il y a entre autres Günter Grass, Philip Roth, Joseph Topol, Ludwig Vaculík et Jan Vladislav. Le Pen Club organise aussi des conférences consacrées à des thèmes historiques et d'autres manifestations. Jiří Stránský a présenté lors de la conférence de presse aussi deux autres initiatives préparées par le Pen Club tchèque. Il s'agit d'abord du mois de la culture arabe qui sera organisé avec la participation de la municipalité de Prague. Jiří Stránský.
Základní myšlenka toho je, že v tom rozděleném a rozbořeném
L'idée fondamentale de cette initiative est la suivante. Dans un monde divisé et détruit par les idéologies et les religions, les seules possibilités d'amener les gens à reprendre le dialogue sont la culture et les relations culturelles. L'initiative a suscité déjà un grand retentissement et je pense que rien n'empêchera le projet de se réaliser.
Le Pen Club tchèque envisage également de fonder un nouveau prix, à l'instar du prix Nobel de la paix. Il serait décerné aux individus et organisations ayant aidé des personnes et des groupes en détresse et les victimes de l'oppression. Selon les organisateurs, le prix Nobel de la paix est trop politisé et ils cherchent donc une nouvelle possibilité pour distinguer ceux qui aident les opprimés et les démunis. Déjà, le Pen Club international dispose pour doter ce prix d'une somme de 100 000 dollars.
C'était les faits et événements. Merci de les avoir suivis et restez avec nous pour la suite de la mission sur Radio Prague.
La République tchèque au quotidien. Alexis Rosenzweig.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans notre émission, rencontre avec une figure de l'histoire contemporaine des relations franco-tchèques. Michel Fleischmann, né à Prague en 1952, après 25 ans passés en France, est aujourd'hui à la tête d'une régie publicitaire et de deux stations de radio privées tchèques, Europe 2 et Frekvence Jedna. C'est au siège de ces radios que j'ai rencontré Michel Fleischmann.
Ivo Fleischmann, votre père était un poète. Je crois que à votre domicile, vous receviez de nombreuses visites d'artistes et d'écrivains. Quels souvenirs avez-vous de cette période et comment est-ce que ça a influencé le reste de votre vie?
Effectivement, mon père était poète, écrivain tchèque, ensuite écrivain français et entre-temps diplomate de la République tchécoslovaque en France. Il était conseiller culturel à l'ambassade. Aussi bien que je me souvienne à Wolfowice, à Prague, je me souviens des visites des écrivains français, puisque mon père s'est spécialisé sur la France et parlait le français ainsi que ma mère. Et donc chez nous venaient des écrivains et ça passe par.
Je crois qu'Aragon venait chez vous, par exemple.
Effectivement, Elsa Triolet, lui Aragon, mais aussi d'autres écrivains, Pablo Neruda, Yves Montand, Simone Signoret, ils sont aussi écrivains quand même. Simone Signoret écrit des romans, si je me souviens bien. Et donc c'était ce monde-là, disons, de la gauche occidentale. Et bien sûr, bon, moi j'étais enfant ici à Prague. Donc j'écoutais un peu de loin et je voyais ces gens-là passer. Cela dit, plus tard, lorsqu'mon père a été nommé à Paris, on continuait à rencontrer ces gens-là dans Vercors et ce monde, toujours ce monde-là. C'est parce que tout simplement, mon père, juste après la guerre, il a été déjà attaché culturel à l'ambassade tchécoslovaque à Paris. Et c'était juste donc à la libération. Et c'est là qu'il a rencontré, qu'il a fait connaissance avec tout ce monde d'intellectuels et de créateurs français, Tristan Tzara, etc., etc. Pour Sartre, bien sûr.
Alors en 1964, il est à nouveau nommé à Paris, à l'ambassade de République tchécoslovaque. Vous aviez un peu plus de 10 ans à l'époque. Quels souvenirs avez-vous de cette première arrivée en France?
Difficile pour la simple raison que je parlais pas un mot français. Que mes parents m'ont lâché dans un collège dans le 15e arrondissement et vas-y débrouille-toi, et donc je me suis débrouillé, j'ai appris très vite le français et après ça allait mieux. Ça a fait aussi que j'ai appris le français tel que je le parle, parce que tout simplement je l'ai appris avec les français au collège. Sinon le monde, mon père essayait dans les années 60 a essayé de reprendre les relations qu'il avait acquis juste après la libération, et donc expliquer à cette France des années 60 que la République tchèque, même si à l'époque socialiste et communiste, prend un chemin d'une certaine libéralisation, tel que c'était d'ailleurs un tout petit peu inscrit dans l'histoire tchèque de l'époque, qui a abouti à 68 et à la libération, le socialisme à visage humain d'Alexandre Dubček. Voilà, ça n'a duré qu'un petit moment.
Alors c'est écrasé par les troupes du pacte de Varsovie. Vous étiez en vacances à ce moment-là à Prague et vous avez dû rentrer en France tout seul. Ça a dû être un peu compliqué.
En août 68, j'étais ici à Prague, plus précisément au nord de la Bohème. Donc déjà rentrer du nord de la Bohème à Prague, c'était pas évident. C'est mon oncle qui est venu me chercher à la campagne, qui m'a ramené à Prague. Et puis, il m'a aussi amené à la gare, à Smíchov, où j'ai pris un train, où j'avais qu'un billet jusqu'à la frontière. Et bien sûr, j'avais pas de visa. Même si mon père était diplomate en France, il me fallait un visa. Arrivé à la frontière, tout simplement, j'ai dit j'ai pas de visa, ils m'ont laissé passer. Ce qui était plus difficile, c'était de passer la frontière germano-française, où, disons, une certaine compréhension de la situation était quand même beaucoup plus petite. Donc là, j'ai rencontré dans le train des jeunes de mon âge et je me suis intégré parmi eux. Et lorsqu'il y a eu le contrôle de la douane, on a tous ensemble crié, c'est le moniteur qui a tous nos passeports, tous nos billets. Ils n'ont pas compté combien il y a de gens dans le compartiment. C'est comme ça que j'ai passé la frontière.
Alors votre père a été le premier diplomate, je crois, à rester en France et à faire une demande d'asile politique. Est-ce que à cette époque, vous pensiez, votre famille pensait que cette période de normalisation allait durer aussi longtemps ?
Je ne sais pas si mes parents se posaient la question si ça va durer longtemps ou pas longtemps. Je pense que la seule idée de cette demande d'asile politique, comme premier diplomate de la Tchécoslovaquie, c'était avant tout d'essayer de dire qu'effectivement, en République tchécoslovaque à l'époque, il y a quelque chose qui a été écrasé, que ce n'est pas seulement un côté politique, c'est aussi un côté culturel. Mon père était un homme de culture, beaucoup plus que de politique. Et de mettre un peu les points sur les i et de dire déjà à l'époque que c'est un pays européen qui est écrasé et qu'il faudrait qu'on en prenne bien conscience.
À quand remonte votre premier séjour à Prague après la révolution de Velours ?
Moi, je travaillais à l'époque à France Culture, à Radio France, et j'ai été envoyé en début décembre 89 à Prague pour faire un reportage qui s'appelait, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais enfin le thème c'était le retour au pays. Donc j'avais un petit magnéto et j'ai enregistré un tout petit peu mes premiers pas après donc combien 20 ans pour un tout petit peu donner une image de ce qui se passe dans ce pays. Donc c'était début décembre, mi-décembre 89.
C'est ce premier voyage qui vous a redonné envie d'habiter en Tchécoslovaquie ?
Moi, je me posais pas le problème, est-ce que je rentre, est-ce que je rentre pas. Moi, je voyais qu'il y a la possibilité, enfin, de retrouver une certaine enfance ou une adolescence perdue. Et je pensais que je vivrais entre les deux pays, et la question, rentrer, ne se posait pas. Ce n'est seulement après, lorsqu'on m'a proposé de venir ici à Prague et créer une radio, c'est là où j'ai vraiment réalisé la chance que j'ai et qu'il faut la saisir, parce que qui est-ce qui a la chance dans sa vie de pouvoir créer comme ça une radio dans un pays où ce secteur, entre guillemets, privé des radios musicales à l'époque n'existe pas. Donc c'est là où j'ai pris la décision de revenir à Prague, mais c'était vraiment pour faire ce travail, plus que de se dire maintenant je quitte la France, je vis en République tchèque. Non, 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 je vis entre les deux pays.
Le programme en langue française de Radio Prague Onde Courte se termine. Merci de votre attention. Vos rapports d'écoute, observations et suggestions seront les bienvenus.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kilohertz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kilohertz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kilohertz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kilohertz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kilohertz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kilohertz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kilohertz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kilohertz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kilohertz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kilohertz, and at 1400 hours on 21745 kilohertz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kilohertz, and at 0430 hours on 9885 and 11600 kilohertz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kilohertz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kilohertz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kilohertz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kilohertz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885